Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
On l'entend rarement. On le voit encore moins dans nos campagnes. Il faut être à l'affût. Guetter ses traces, ses horaires de passage, ses points d'arrêt où il retrouve ses congénères. Car il est en voie de disparition dans nos territoires ruraux. Comme de nombreuses espèces sauvages, il s'est rapproché des villes.
La disparition du train en milieu rural. Un documentaire de Anne-Laure Le Joliffe qui part de la Creuse pour rayonner dans tous les territoires ruraux.
Ça n'a pas toujours été le cas. En 1879, Charles de Freycinet, alors ministre des Travaux publics, lance un vaste plan de relance économique basé sur le train et les canaux, afin d'améliorer la circulation des ressources et de, je cite, « donner accès au chemin de fer à tous les Français ».
L'histoire du chemin de fer dans les régions rurales est toujours intéressante parce que c'est aussi lié à des industries qui ont par exemple disparu. Je pense notamment, là, c'est les mines de la Vavay.
Pierre-Alain Menant, passionné de l'histoire du chemin de fer, il a écrit l'ouvrage « Histoire du chemin de fer en Creuse » sorti chez les Ardents Éditeurs en juin 2024.
On oublie peut-être un peu, mais ça a été plus de 2000 employés dans les années 1870. Il y a eu un agent. Alors, le chemin de fer, ça va se développer. C'est Napoléon III, en gros, qui va vraiment développer le chemin de fer en France. La première ligne s'ouvre en 1827, du côté de Saint-Étienne, pour le bassin houillé. Et à partir des années 1850, Napoléon III, donc à partir qui devient Napoléon III en 1852, va faire les grandes compagnies. Et là, le chemin de fer va se développer de manière phénoménale. Ça va être l'unique moyen de déplacement. En 1875, il y a Freycinet, Charles de Freycinet, qui est un ministre des Transports, qui va faire le plan Freycinet, qui va couvrir la France d'encore plus de lignes de chemin de fer pour compléter le maillage. Et donc, de 1860 à 1900 à peu près, voire jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est vraiment un âge d'or du chemin de fer en France. On regarde des statistiques, en 1905, il y a un rapport parlementaire sur l'automobile, alors sur l'automobilisme, même comme le dit le titre du rapport, qui est un phénomène nouveau, l'automobile. Le permis a été instauré vers 1900, et donc il y a des statistiques qui commencent à sortir. Et en Creuse, en 1905, il y a 55 voitures en circulation, c'est-à-dire une pour à peu près 5 à 6 000 habitants.
Alors la gare de Saint-Sébastien, autrefois, était très importante.
Bertrand Giraud, président du comité de défense de la gare de Saint-Sébastien, la Codégas.
Quand on regarde le plan de 1892, on se rend compte que c'était probablement la gare la plus importante de la Creuse. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais il y avait 14 voies. 3 châteaux d'eau, et ils en ont même construit un quatrième après, parce qu'on a des photos des années 20 avec 3 châteaux d'eau, des photos, j'ai une photo des années 50, il y en a 4. Alors pourquoi cette gare était-elle si importante? D'abord parce que c'était la gare de correspondance pour aller à Guéret, à l'époque, avec la ligne Saint-Sébastien-Guéret, inaugurée en 1886. Et ensuite, surtout, c'est qu'en fait, sur cette ligne Saint-Sébastien-Guéret, il y avait la gare de Bussière-Dunoise qui, durant la Première Guerre mondiale, était le premier centre de production et d'expédition de viande et de pommes de terre, vers Paris notamment. Donc en fait, Saint-Sébastien était déjà une grosse gare de transit pour ses marchandises vers Paris. Ensuite, Saint-Sébastien, c'était une commune importante à l'époque, il y avait beaucoup plus d'habitants, et on avait des foires importantes, on avait notamment le 10 du mois, une foire au porcelet qui était très connue, les gens venaient de loin. Donc il y avait une dynamique à la gare de Saint-Sébastien, et les gens avaient plus le réflexe de prendre le train, parce que tout le monde n'avait pas une voiture, donc le train était quelque chose de naturel pour ceux qui avaient du mal à se déplacer.
Ce qui était, c'était très très vivant, notamment les week-ends.
Jean-Luc Minot, fils du chef de gare de Busseau-sur-Creuse dans les années 70-80.
Parce que Busseau, c'est un point entre guillemets stratégique, puisque c'est Limoges-Montluçon et par extension Bordeaux-Lyon, mais aussi la fameuse voie donc qui passe par Le Moutier-d'Ain, La Vavée, Fourneau, Aubusson, Feltin, qui allait jusqu'à Ussel. Et donc ça desservait tous les gens, tous les étudiants par exemple, qui allaient au LMB, à Feltin. Voilà, enfin, le week-end, le vendredi soir et le dimanche soir, enfin, c'est une fourmilière. Il y avait un monde, mais vraiment très très important. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est gravé dans mon souvenir. Il y avait un hôtel-restaurant qui a fonctionné, je ne sais plus jusqu'à quelle année exactement. Et les cheminots, sinon, avaient la possibilité, par exemple, je ne sais pas, quand ils faisaient un aller-retour de Guéret-Montluçon, bah, ils appelaient ça ouais, un réfectoire, comme dans une cantine, en fait, quoi. Donc, la possibilité de manger, de boire un coup, il y avait un frigo, etc. Ils apportaient leur gamelle, ils faisaient chauffer leur truc, ou ils faisaient leur cuisine. C'était aussi très, très vivant par rapport à ça, quoi. Les mécanos, les contrôleurs. Ouais, encore une fois, c'était très 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 vivant, et on parle de ça, ouais, bah, il y a quoi, une quarantaine d'années, 35 ans, quelque chose comme ça, quoi, ouais, donc il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, mais.
L'âge d'or du chemin de fer en Creuse, c'est aussi le Bordeaux-Genève, ce train international qui traversait la Creuse. Et effectivement, autour des gares, alors notamment des gares de bifurcation, comme Vieilleville ou Busseau, il y a tout un écosystème économique qui se crée avec des hôtels. Parce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand les lignes ouvrent au début, les trains vont s'arrêter aux gares de bifurcation. C'est-à-dire que on allait de Feltin ou d'Aubusson jusqu'à Busseau, mais on n'allait pas plus loin. Et donc, il y avait des correspondances. Évidemment, c'était des grosses gares de correspondance, et ça imposait bah, parfois de passer la nuit pour prendre la correspondance du lendemain matin, puisqu'on avait trois trains par jour à peu près.
Moi, on m'avait offert pour un anniversaire, un Noël, peu importe, une table de ping-pong. Donc, j'aimais beaucoup, beaucoup jouer au ping-pong. Et donc, comme il y avait de la place à l'extérieur de la gare, mais aussi à l'intérieur, parce que la salle d'attente était très grande, il y en a même une deuxième plus petite si on voulait avoir un peu plus d'intimité. On me laissait la possibilité d'installer ma table de ping-pong. Donc, je jouais très régulièrement avec un monsieur très âgé à l'époque, à la retraite, et qui avait joué au ping-pong à un certain niveau et qui avait encore un certain niveau à son âge. Et donc, il me sollicitait très souvent et j'étais très content de jouer avec lui, mais au gré du passage des voyageurs également, qui voyaient que la table était installée, moi si j'étais dans les parages et si j'avais fait mes devoirs, et ben voilà, on prenait deux raquettes, une balle, et on improvisait une partie, et c'était chouette, quoi. Ouais, la table de ping-pong dans la salle d'attente de la gare de Busseau, ça fait partie, puisque c'est un moment important, celui-ci en est un, voilà.
L'âge d'or du chemin de fer en Creuse, on peut le situer entre 1900 et 1914. La dernière ligne qui va ouvrir, c'est Guéret-la-Châtre en 1906. Et en 1912, on va ouvrir la petite halte de Lavalette dans le nord de la Creuse. Et donc, en 1912, on a 48 gares ouvertes en Creuse. Après, ce qui est exceptionnel dans la Creuse, c'est la diversité des trafics. Déjà, pour un petit département rural, il y a eu quand même les trains internationaux Bordeaux-Genève. D'ailleurs, il y a même eu un projet de ligne de Bordeaux-Odessa qui devait relier le port de Bordeaux à la Crimée en évitant l'Allemagne. Il y a eu les trains de charbon de la Vavée qui étaient un trafic intense. C'était des dizaines de milliers de tonnes de marchandises par an, des trains complets de charbon. On imagine aujourd'hui un petit peu mal tout ça quand on s'arrête à la Vavée. Il y a eu les trains pour les curistes à Évaux-les-Bains. Il y a eu aussi tout ce trafic des maçons qui, à Paris, allaient tous les ans travailler à la belle saison. Et enfin, il y a eu les militaires à la Courtine en 1905, quand on a ouvert le camp militaire de la Courtine. Ça a drainé un trafic assez important, et notamment, on retrouve des images avec des chars, des trains de chars.
Certains, pas tous, qu'on appelle les mécanos, donc les conducteurs de train, je leur demandais, avec l'autorisation de mon papa, voilà, pour faire une manœuvre, pour voilà, apporter, transporter un ou deux wagons d'un point A à un point B de la gare. Certains acceptaient, donc moi j'étais comme un dingue, bien évidemment, quoi. Et comme tout gamin qui était dans cette situation-là, j'imagine, je voulais être mécano conducteur de train à un moment donné. Le truc qui m'a tout de suite freiné, en fait, c'est que mécano, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'à l'époque, quand le train tombait en panne au milieu de la campagne, c'était à toi de le réparer.
Ah, le train pour tous et toutes, le train que vous pouviez rater car vous saviez qu'il y en avait un autre dans l'heure. Le train des tarifs abordables, le train simple et convivial. Peut-être que vous l'avez connu car après tout, la dégradation du service ferroviaire est somme toute assez récente.
Le Intercity numéro 3652 à destination de Paris-Austerlitz, départ 15h29. Partira voie A. Il desservira Châteauroux, les Aubrais, Paris-Austerlitz.
Alors, ce qui reste en Creuse à date, donc on a effectivement la ligne POLT qui va passer par la souterraine.
Yann Desenfants, secrétaire du syndicat des cheminots de la Creuse et aiguilleur sur les gares de Creuse et du Nord Haute-Vienne.
Qui fait Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. On a la ligne Limoges-Montluçon qui va passer par les gares de Vieilleville, Guéret, Busseau-sur-Creuse, La Vaufranche pour la Creuse. Voilà, avec des points d'arrêt voyageurs, qui ne veut pas dire qu'il y ait du personnel, ça c'est autre chose. Voilà, et on a la ligne Busseau-Feltin qui devrait fermer au mois d'août. Voilà. Après, au niveau du personnel, il y a à peu près 45 cheminots qui travaillent en Creuse. Il y a 10 ans, on était plus de 200. Voilà, l'automatisation, la modernisation fait aussi qu'on va sur moins de personnel. Et aussi, on va sur moins de personnel parce qu'on ferme des lignes, donc voilà, moi quand je suis arrivé en Creuse, la gare de Vieilleville par exemple, j'allais y travailler en tant qu'aiguilleur. Cette gare est automatisée comme celle de la souterraine aussi, maintenant, au niveau des aiguillages, elle est faite par Saint-Sulpice-Laurière qui a encore d'autres missions, qui gère pratiquement sur la ligne POLT du Palais-sur-Vienne jusqu'à Châteauroux.
De toute façon, dans le Massif central, c'est la dernière qui nous reste, entre guillemets, ligne capillaire.
François Landry, créateur de la page Facebook La Petite Ligne, pour défendre et valoriser la ligne Limoges-Busseau-Feltin.
Toutes les autres ont fermé. Si on regarde la carte du vide ferroviaire dans le Massif central, La Petite Ligne, c'est un petit trait en cul-de-sac qui reste au milieu de ce grand vide ferroviaire. On est dans la suite logique de la fermeture de Montluçon-Ussel, Ussel l'accueil le Mont d'Or. Il y a fort à parier que, partie comme c'est, la ligne Montluçon-Guéret fera pas mieux dans quelques années, puisque la petite ligne en fait a bifurcation au niveau de Busseau, c'est-à-dire que d'un côté on a Feltin à Limoges, et de l'autre Montluçon-Limoges, avec la réunification de ces deux lignes au niveau de Busseau. Il y a fort à parier qu'on commence à fermer une des deux ramifications. Après, ils vont nous sortir que c'est le viaduc de Busseau qui est en défaut de maintenance, qui est plus sécuritaire. Et puis là, au moins, ça fermera les deux seules lignes creusoises qu'il y avait. Enfin, on n'aura plus qu'un terminus à Guéret.
Tu travailles par n'importe quel temps. Faut toujours faire gaffe. C'est par rapport à la sécurité, machin, les trucs. Ouais.
Arnaud Braconnier, ouvrier sur les voies de chemin de fer pendant 8 ans.
C'est pas évident, c'est pas... Alors moi, j'ai travaillé pour Colas Rail et ETF, European Travaux Ferroviaires. Moi, j'ai vu de telles zones, de TPK à TPK protégées.
C'est quoi un PK?
C'est point kilométrique. T'avais, par exemple, moi, j'avais du PK 100 ou PK 150, quoi. J'avais des équipes. Et je devais savoir toutes les équipes à tel endroit où ils devaient être, quoi. Et je devais mettre un SAM, ce qu'on appelle un SAM, un drapeau au milieu de la voie, au cas où il y a un train, avec un pétard. Et pour fermer la voie, tu faisais pareil, quoi. Voilà. Parce que des fois, c'est mal annoncé, quoi. Parce que c'est par rapport, t'as les annonceurs SNCF, et les boîtes ETF ou Colas, ils ont des annonceurs aussi, quoi. Il y a eu un manque de communication des fois par rapport aux équipes, les machins. Moi, je connais quelqu'un, ça remonte à un an ou deux ans, quoi. Ils ont failli se faire embarquer sous un tunnel, quoi. Il y a un train qui arrive, parce que c'était un chantier fermé, mais il y a un train travaux qui devait passer, il n'était pas averti qu'il y avait une équipe qui travaillait sous le tunnel, et puis heureusement qu'il y a quelqu'un qui était hors du tunnel qui a vu le train arriver et qui a fait tout pour stopper le train, quoi.
Mais alors, qui est responsable de cette diminution de services et de qualité ?
Alors, la situation actuelle sur le chemin de fer est particulièrement creuse. Elle vient de plusieurs aspects pour moi.
Bertrand Giraud, président du comité de défense de la gare de Saint-Sébastien, la Codégas.
Elle vient d'abord d'un problème national. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau national, on a une ambiguïté politique sur notamment qui prend en charge la rénovation du réseau. C'est-à-dire que l'État se désengage de plus en plus de la maintenance, ne veut garder que les grandes lignes, et encore, quand on voit sur la ligne POLT comment ça se passe. Et après, on voit que sur les petites lignes, c'est pareil, l'État a tendance à se défausser sur les régions, à dire aux régions, ben c'est à vous d'entretenir le réseau. Sauf que les régions n'ont pas dans leur mission vocation à entretenir le réseau ferroviaire. Elles acceptent de le faire, il y a un petit peu un chantage. C'est-à-dire, ben, si vous ne le faites pas, on ferme votre ligne. C'est ce qui est en train de se passer avec Guéret-Felletin.
En fait, la région est autorité organisatrice des transports TER. C'est elle qui va décider du nombre de transports. C'est pour ça que nous, on les interpelle souvent, y compris moi, sur la ligne Busseau-Felletin. Ça fait très longtemps que je les interpelle quand on n'a aucun train qui peut amener des étudiants au LMB avant 15h. C'est sûr qu'on ne va pas avoir du monde dans les trains. Donc, c'est une vraie problématique. Donc, c'est la région qui est autorité organisatrice. Le problème, c'est que sur nos petites lignes, entre autres, il n'y a pratiquement que du transport de voyageurs. Du coup, SNCF Réseau estime qu'elle va se retourner sur le seul transporteur qu'elle a, donc la région, pour financer les infrastructures, en sachant que la région, elle, ne va pas avoir les finances pour ça, même si elle va faire un contrat plan État-Région avec l'État pour avoir des financements. Quand on voit le nombre de lignes qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine, elle ne pourra pas financer tout. Donc c'est pour ça que nous, plusieurs fois, on a interpellé la préfecture en lui disant attention, depuis quelques années, c'est pas possible et la région ne pourra pas financer. Et on le voit, hein, les trois lignes qui ont fermé en Nouvelle-Aquitaine, les trois lignes sont en Limousin.
Alors, c'est vrai que la régionalisation des transports a apporté des choses très bien.
Pierre-Alain Menant, passionné de l'histoire du chemin de fer, il a écrit l'ouvrage « Histoire du chemin de fer en Creuse » sorti chez les Ardents Éditeurs en juin 2024.
Notamment, ça a permis aux conseils régionaux de rajouter de l'offre. Et ça a été quelque chose d'extrêmement positif. Parfois, on a quand même des frontières avec les régions qui sont extrêmement marquées. Alors, je vais vous donner une anecdote, mais la Nouvelle-Aquitaine, c'est la dernière région qui n'a pas supprimé le compostage des billets. Eh bien, quand vous montez, par exemple, une fois j'ai demandé à un contrôleur, si vous montez en Centre-Val-de-Loire, que vous descendez sur le même train en Centre-Val-de-Loire, vous n'avez pas besoin de composter. Si vous descendez à la gare d'après, Saint-Sébastien, fallait composter au départ. Comment l'usager peut s'y retrouver ?
C'est pas qu'on manque de dessertes, c'est qu'elles sont mal positionnées. On a 6 arrêts de train dans chaque sens, donc ça fait 12. On a même un 13e le lundi matin. Donc, on a une desserte qu'on pourrait juger correcte. Sauf que, on peut pas être à 8h à Châteauroux le matin pour aller travailler à 8h. Donc, vous voyez, c'est quand même paradoxal. Le premier train, il passe à 8h15 et il arrive à 9h-5. C'est quand même trop tard. Alors, on peut se dire, le train, il est pas là. Ben si, le train, il existe. Il existe bien, mais il fait demi-tour à la souterraine. Et de l'autre côté, on a le même exemple côté région centre. On a des trains qui arrivent à Argenton, qui font demi-tour à Argenton. Et là, c'est un peu le gros problème qu'on a, c'est qu'on est victime d'un effet frontière. On est dans une Europe qui est censée avoir supprimé les frontières, et nous, on vit de plein fouet les inconvénients d'une frontière, mais d'une frontière qui fait 50 km d'épaisseur. veut dire qu'entre Argenton et la souterraine, on a un trou de desserte sur la ligne Polt, qui est la troisième radiale de France. On a un trou de desserte en heure de pointe.
Au départ de Felletin, vous allez avoir le matin deux trains. Vous allez avoir un train qui fait Felletin-Limoges et au même horaire, un bus qui fait Felletin-Limoges. Alors les deux passent pas par le même endroit, les deux arrivent en même temps à Limoges. Mais évidemment, entre 2 euros et 20 euros, le commun du mortel a vite fait son choix. Hein. Donc oui, c'est de la concurrence déloyale, c'est pas normal qu'un bus coûte moins cher que le train, surtout quand c'est du TER. Voilà, à part dégoûter les gens de prendre le train. Après, le prix du train, c'est un vrai sujet sensible. À savoir que sur le train, alors là, pour prendre des plus grands trajets, mais si vous voulez aller en Espagne ou des choses comme ça, le train est beaucoup plus cher que l'avion. Et ça, c'est pas normal non plus. Ben oui, parce que l'avion, il est détaxé. Mais nous, le train, il y a des taxes dans tous les sens, sur l'électricité qu'on va pomper, sur plein de choses. Alors que l'avion, ben, le kérosène n'est pas taxé, donc c'est pas normal. Pour que les compagnies s'implantent dans un aéroport, les compagnies aériennes s'implantent, et ben, souvent on leur fait des cadeaux. Et des cadeaux, ils arrivent gratuitement. Et puis voilà, c'est tout le système qui est à revoir et c'est bien dommageable.
On supprime parfois aussi des trains parce qu'on ne les prend pas. Mais d'un autre côté, il y a aussi une offre qui est parfois pas attractive. Quand vous allez en Suisse, sur n'importe quelle ligne, vous avez un train par heure, y compris dans les régions les plus rurales. Ici, prendre le train, c'est parfois un peu un acte militant. Moi, tout à l'heure, je vais repartir, je vais aller à Périgueux. J'ai 1h44 de correspondance à Limoges. Donc, mon trajet fait 177 km. C'est écrit sur mon billet. Je vais mettre un peu plus de 4 heures. C'est-à-dire que je vais y aller, finalement, à la vitesse d'une voiture sans permis.
L'État est encore actionnaire de SNCF hein, et c'est lui qui décide de qui dirige la SNCF. Donc même si on s'autofinance et que il y a quand même l'État derrière et c'est l'État qui va décider de telle ou telle chose. En gros, la disparition du fret, c'est dû à l'État qui a voulu, soi-disant sous contrainte européenne, ouvrir la concurrence, comme il est en train de le faire pour tout le transport de voyageurs, en disant que c'est l'Europe qui les oblige, en sachant qu'il y a la Belgique qui a dit qu'elle refusait. Je crois qu'il y a les Pays-Bas aussi qui a dit qu'elle refusait, et je crois qu'il y a le Danemark. Donc c'est possible de refuser cette ouverture à la concurrence. Alors là, plus du voyageur, parce que le fret s'est déjà fait depuis des années, mais c'est possible. Après, c'est juste une volonté politique de le faire ou pas.
Lors de ces entretiens, plusieurs intervenants m'ont avoué qu'aujourd'hui, prendre le train était un acte militant. Ils le font par passion, mais le service rendu n'est plus là. Et encore une fois, au regard de ce que font certains de nos voisins européens, il s'agit bien d'un choix politique et non d'une fatalité. Depuis cet enregistrement, la petite ligne, c'est-à-dire la ligne Guéret-Felletin, a vécu son dernier voyage le dimanche 31 août 2025. Elle est désormais remplacée par des cars régionaux. Le train en France s'est tout d'abord développé pour des raisons industrielles. Et savez-vous que si aujourd'hui, sur les transversales comme la ligne Polt ou la décriée Clermont-Paris, dont on parle régulièrement, eh bien s'il y a autant de soucis sur ces lignes, des soucis de retard ou de suppression de train, c'est en grande partie parce qu'il n'y a plus de fret sur ces lignes.
Alors, l'histoire du chemin de fer, ça se fait d'abord pour le fret.
Pierre-Alain Menant, passionné de l'histoire du chemin de fer, il a écrit l'ouvrage « Histoire du chemin de fer en Creuse » sorti chez les Ardents Éditeurs en juin 2024.
D'ailleurs, c'est marrant parce que le chemin de fer arrive, je vous le disais, en 1827 dans la région de Saint-Étienne pour transporter le charbon du bassin houiller de Saint-Étienne. Le chemin de fer en Creuse, on va aussi se poser cette même question de la desserte des bassins houillers. Le chemin de fer arrive en 1856 en Creuse avec la ligne Paris-Limoges, mais c'est, on va dire, presque anecdotique, puisqu'il n'y a que trois gares desservies dans la Creuse, Saint-Sébastien, la Souterraine et Forgevieille. Et le vrai début du chemin de fer en Creuse, ça va être l'ouverture de la ligne de Saint-Sulpice-Laurière à Montluçon. Et là, va y avoir des débats assez forts sur la direction que devait prendre la ligne, puisque Guéret, à l'époque, est moins peuplé qu'Aubusson, et donc il y a un débat de savoir si la ligne doit passer par Guéret ou par Aubusson, sachant que la Creuse, on va dire, économique et industrielle à l'époque, c'est Bourganeuf, Felletin et Aubusson. Et notamment pour les bassins houillers, il y a un conseiller général qui se nomme Dumiral, qui était conseiller général de Felletin, qui a milité très fortement pour que le chemin de fer ne desserve pas Guéret, mais passe plutôt par le bassin houillé de la Vavay. C'est beaucoup l'objectif industriel qui va dicter le tracé des lignes au début. Et là, quand on a ce débat en Creuse de savoir où doivent passer les lignes de chemin de fer, c'est les marchandises qu'on doit transporter qui sont évidemment primordiales.
Il y avait énormément de fret, d'autant plus que Busseau, juste en face, donc de l'autre côté des rails, il y avait la laiterie qui s'appelait à l'époque Négobereuf, donc était assez connue notamment pour fabriquer des fromages à pâte molle.
Jean-Luc Minot, fils du chef de gare de Busseau-sur-Creuse dans les années 70-80.
Voilà, donc il y avait du fret par rapport à ça. Il y avait les wagons estampillés Steff, je me souviens. Il y avait aussi le Cernam, qui était un service de transport de tout un tas de trucs. Il y avait encore, on en voit encore un tout petit peu, mais vraiment à la marge des wagons qui transportent des pierres, des caillasses, du bois un petit peu. Enfin, et ouais, c'était aussi vivant donc au niveau des voyageurs, mais aussi par rapport au trafic de marchandises. Il y avait des manœuvres régulièrement qui se faisaient à la gare de Busseau, où certains mécanos qui étaient très sympas avec moi me laissaient monter dans la cabine et toucher un petit peu les trucs, et c'était rigolo, quoi. Donc voilà, ouais. C'est comme ça que voilà, j'ai appris l'usage du crocodile. Le crocodile, c'est une sorte d'alarme qui se déclenche en fait si voilà, la personne malencontreusement s'endort dans la cabine du train, mais qui fait que le train s'arrête parce que le mécano s'est endormi, quoi. Voilà.
Un train fret, il a même certains avantages.
Yann Desenfants, secrétaire du syndicat des cheminots de la Creuse et aiguilleur sur les gares de Creuse et du Nord Haute-Vienne.
Pour entretenir, malgré ce qu'on pense, malgré le tonnage, en fait, il a une importance. Vous avez dû entendre parler qu'on supprime des trains pour les feuilles à l'automne, qu'on supprime des trains à la période hivernale parce que la caténaire gèle. Mais en fait, tous ces trains fret, ils avaient cette utilité, c'est que ils roulaient la nuit souvent. Les trains étaient lourds, donc ça nettoyait vraiment bien la voie et entre autres le rail, donc on n'avait pas ce problème de feuilles. Et également, ces trains étaient assez lourds et du coup, en fait, sur la caténaire, ça empêchait que la caténaire gèle parce qu'ils tiraient de l'énergie en permanence et il y avait des trains réguliers, alors que là, on a des périodes où il y a 6 heures sans train, donc c'est ça la problématique. Voilà.
Nous, on est victime sur la ligne Polt de la suppression du fret. Indirectement, pourquoi ?
Bertrand Giraud, président du comité de défense de la gare de Saint-Sébastien, la Codégas.
Parce qu'en fait, les trains de fret, ils circulaient la nuit. Et quand c'était l'hiver qu'il y avait du givre, et qu'un train de fret de 8000 tonnes qui passe, ça tire dans la caténaire. Donc au niveau électricité, ça pompe, comme on dit. Et du coup, ça chauffait la caténaire. Donc le matin, les premiers trains de voyageurs, les premiers intercités, les premiers TER n'avaient pas de problème de givre, parce qu'il y avait des trains qui passaient régulièrement, et notamment des trains de fret. Maintenant que les trains de fret ne passent plus la nuit, il n'y a plus le Telgo non plus qui passait juste avant, qui venait d'Espagne, et bien qu'est-ce qui se passe ? Quand il fait froid, il y a du givre sur la caténaire, et ils sont obligés de ralentir les trains, voire maintenant des fois par exemple quasiment les supprimer, quand il y a du vent. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Ils sont obligés de mettre une loco racleuse devant les premiers intercités pour que la loco... Alors la loco, elle a un pantographe spécifique qui racle la caténaire pour éviter que le train derrière soit pénalisé. Sauf qu'ils n'ont pas assez de loco racleuse, ils n'ont pas assez de personnel. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font passer une loco racleuse et ils mettent deux intercités à la queue leu leu derrière. Donc au lieu d'avoir un intercité toutes les heures, un horaire cadencé, normal, on se retrouve avec le premier intercité, il est dans son horaire normal, et le deuxième, il est juste derrière. Sauf que nous, on a un TER en correspondance le lundi. Et la correspondance, elle saute. Et là, ça illustre parfaitement toutes les problématiques qu'on a. Parce que personne n'a pensé à dire « Ah bah oui, mais attendez, en décalant l'intercité, on fait sauter la correspondance avec le TER ». Et donc là, quand vous dites en parler aux régions, ils vont vous dire, bah oui, mais c'est Intercité qui a déplacé son train. Quand vous en parlez à Intercité, ils vont vous dire, bah, les régions qui a déplacé leur TER.
Donc en enlevant les trains de fret, on a rendu les lignes plus fragiles, plus soumises aux aléas climatiques. Comme si on avait cassé l'équilibre de la biodiversité du chemin de fer, pour filer la métaphore. Mais la disparition du fret a d'autres conséquences néfastes, comme l'augmentation des camions sur les routes, l'augmentation donc de la pollution et le coût que tout cela engendre.
Des camions qui vont rouler sur des routes communales, qui vont rouler à plein d'endroits, détruire les routes. Quand le fret est sur le fer, en gros, il y a des taxes, il y a des péages, donc il y a un entretien régulier. Là, le problème, c'est que les camions, ils payent rien, quoi. Donc, c'était bien un peu pour ça que l'écotaxe avait été mis en place, mais vite enlevé. Alors, même si c'était que sur les grands axes, on voit bien que nos routes communales, départementales, elles se dégradent et qu'il faut toujours plus d'investissement. Je crois qu'au département, c'est le premier... c'est là où ils mettent le plus de financement, hein, dans les routes. Et il en faudrait trois fois plus, hein, pour réparer nos routes, parce qu'on voit bien ces énormes camions qui sont sur nos routes et qui détruisent et qui, en contrepartie, ne payent rien, quoi. Et c'est encore l'usager derrière qui va payer. Ça a été une volonté politique. Alors, ils ont beau faire des beaux discours sur l'écologie, prenez le train, c'est plus écologique. On voit bien que dans les faits, rien n'est fait. On parlait du fret juste avant. La Suisse, c'est pas des philanthropes. La Suisse, ils obligent les camions qui veulent traverser le pays à le faire par le fret, sur un train. Donc, pourquoi nous, on n'oblige pas tous ces camions qui traversent le pays à le faire sur un train? Après, derrière, on n'est pas dupes, hein. On sait que derrière, les péages, ils vont avoir moins d'argent. Voilà, donc les copains aux politiques, Vinci ou des choses comme ça, on sait que derrière, c'est ça aussi. Mais après, tout dépend ce qu'on veut. Si on veut une écologie, si on veut moins de morts, parce qu'il y a toute la sécurité routière derrière, tout ce qui peut se passer. Donc voilà, là, il faudrait une vraie volonté politique.
Un gars bizarre qui fait pas ce qu'il dit qu'il va faire. Même immobile, il croit qu'il y va fort. Il part de tout là-haut puis finit par terre. Au milieu de la route éclairée par vos phares, le vent souffle et bouscule le pourquoi du comment. Quand il s'agit de le faire, il faut pas déconner. Faut faire comme si ça tenait qu'à nous. On va chanter plus fort que le bruit des camions.
Et la SNCF, elle est mondialisée, hein. Elle a des trains dans tout, partout, ou des transports partout, hein, pas que. Et du coup, elle va faire du fret à l'étranger, mais elle n'en fait pas en France, pratiquement. Elle va concurrencer, elle va en Espagne, elle va partout faire. Elle a aussi des métros, elle a plein de choses, hein. Mais oui, Géodis, c'est le plus gros transporteur routier en plus de France, et ça appartient à la SNCF.
En août 2025, la dernière ligne capillaire interne à la Creuse, la ligne Busseau-Feltin, affectueusement appelée la petite ligne, s'arrêtait définitivement. Penchons-nous sur une fermeture annoncée, on pourrait presque dire programmée, alors que la mobilisation populaire au moment de ces enregistrements, c'est-à-dire printemps 2025, battait son plein. Une pétition contre la fermeture de la ligne avait même rassemblé près de 22 000 signatures.
On a voulu tuer cette ligne de toutes les manières possibles.
François Landry, créateur de la page Facebook La Petite Ligne, pour défendre et valoriser la ligne Limoges-Busseau-Feltin.
Il faut savoir que jusque dans les débuts des années 2000, la gare de Feltin avait en trafic bois le plus gros trafic du Limousin, c'est-à-dire la plateforme est toujours existante. Il y avait deux trains de bois qui partaient par semaine de la gare de Feltin. Aujourd'hui, ça a été remplacé par des camions, qui d'ailleurs, on n'en parle jamais, mais esquintent toutes les routes de la Creuse, et ça demande des millions d'euros également pour refaire tout ce qu'ils dégradent. On avait bien sûr pas de concurrence déloyale du bus comme aujourd'hui, c'est-à-dire que là, en ce moment, on a beau se battre à tous les comités de ligne pour demander un abaissement du billet de train. Il faut savoir qu'en ce moment, sur un Feltin-Limoges, on est à 23 euros, le bus le fait pour 2,30 euros. Alors on nous répond en permanence qu'il y a des abonnements qui existent, mais enfin pour l'avoir fait plusieurs fois en simulation, le billet reste le quintuple, même avec abonnement par rapport au bus. Hein, donc ça, voilà, c'est une concurrence déloyale, une de plus. Donc voilà, toutes ces choses-là, plus les horaires qui avaient été, on va dire, complètement passés à la moulinette et qui n'avaient plus aucun intérêt pour les voyageurs, tout ça a fait qu'il y a eu moins de fréquentation, il y a eu moins d'intérêt pour cette ligne, moins d'investissement, et puis voilà, on l'a tué gentiment.
Mais effectivement, on laisse dépérir parce qu'on n'a pas les investissements et on n'a pas l'argent nécessaire pour le faire. Donc, on va privilégier des lignes au détriment d'autres.
Yann Desenfants, secrétaire du syndicat des cheminots de la Creuse et aiguilleur sur les gares de Creuse et du Nord Haute-Vienne.
Les toutes petites lignes comme on peut avoir entre Busseau et Feltin, on va commencer par mettre des horaires qui ne correspondent à rien et dire regardez, elle n'est pas empruntée du tout. C'est sûr, hein, quand vous partez à 14h de Guéret pour arriver à 14h50 à Feltin, qui ça intéresse? Il faut être honnête, hein, et c'est le premier train pour aller à Feltin, donc c'est dommage, hein, parce que vous avez quand même 3 ou 4 lycées sur l'axe qui sont desservis. Et après, politiquement, on le voit, hein, ils préfèrent qu'il y ait des camions, hein, malgré tout, hein. Ils préfèrent que, même si publiquement ils vont dire que c'est pas écologique, des choses comme ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le président de la Comcom de Guéret, parce que dans Guéret, vous avez une voie là, qui s'en va dans toute la zone industrielle et qui dessert un paquet d'entreprises. Cette voie, elle appartient à la Comcom. Moi, il y a quelques temps, j'ai été les voir pour leur dire il faudrait faire des travaux sur cette voie, sinon ils vont nous la fermer. Là, en décembre, on n'a plus le droit de circuler dessus. Alors, on n'a plus de train. Bon, voilà. Mais là, ça, le jour où il va falloir réouvrir, ça va coûter beaucoup plus cher que ce que ça pourrait coûter. Là, de mémoire, il y en avait pour 800 000 euros pour à peu près 1 km là, dans la zone industrielle. Alors, c'est sûr, ça fait beaucoup. Mais après, on est tranquille pour 90 ans. Et les routes, moi, j'aimerais bien savoir combien ça coûte de refaire les routes avec tous les camions qui peuvent passer dans la zone industrielle. Et le prix, je crois qu'il est équivalent du kilomètre. Donc, je vois pas. Voilà, après, c'est des volontés encore politiques de faire telle chose ou telle chose.
Il y a des oublis sur le territoire.
Bertrand Giraud, président du comité de défense de la gare de Saint-Sébastien, la Codégas.
C'est vrai que ces petites lignes, je pense qu'elles ont aussi, fait l'objet d'une négligence de la part des élus. C'est-à-dire que c'est pas maintenant qu'il faut tirer la sonnette d'alarme sur Guéret-Feltin. Il aurait fallu s'occuper de cette ligne il y a 10-20 ans pour mettre une bonne desserte dessus. C'est là que les élus auraient dû taper du poing sur la table pour dire on veut une bonne desserte, dire ça à la région. La région aurait dû dire à l'État donnez-nous les moyens d'entretenir cette ligne, on peut répartir les financements. Enfin voilà. C'est-à-dire que là aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui, on réagit dans l'urgence. C'est mieux que de ne pas réagir, mais c'est un petit peu trop tard pour le faire.
Et des chiffres, il n'y en a pas. Un CM1 pourrait le sortir, un chiffre comme ça, entre 50 et 80 millions d'euros pour refaire 30 km. Il y a une grosse marge déjà. Aucune étude a été faite. Le seul problème, par contre, c'est que s'ils nous la suspendent avant de faire l'étude, il faut savoir qu'une ligne ferroviaire, dès qu'elle est fermée, pour la faire réouvrir, c'est déjà tout un combat. Il faut savoir rien qu'un passage à niveau, et elle en a des dizaines par exemple, au bout de 72 heures, on ne peut pas rouvrir une ligne sans recontrôler de A à Z un passage à niveau. Alors après, on a le problème de la végétation qui s'installe très rapidement. Donc en fait, on va être amené à remettre des dizaines de millions d'euros si un jour on veut refaire déjà rien qu'une étude pour savoir l'infrastructure, où elle en est, qu'est-ce qu'il faut refaire, etc. Donc plus en fait on va la suspendre rapidement, plus elle va nous coûter cher ou plus ça sera impossible de la remettre en circulation rapidement ou même un arrêt définitif en fait. Ça, c'est ce qui va la tuer à coup sûr, on l'a vu pour Mauluston-Ucel, c'est-à-dire que même pour leur projet de voie verte, ça leur coûte des millions d'euros pour la redébroussailler, voir dans quel état elle est en dessous la végétation. Enfin, on est pris à la gorge là en fait. S'ils font ça, c'est la mort assurée de la ligne.
Parce parce que les chiffres qui sont donnés par SNCF nous paraissent aberrants pour ce type de ligne, et on va pas faire une ligne TGV entre Feltin et Busseau. Donc nous, ça nous paraît, enfin les prix nous paraissent aberrants, en sachant que on a une problématique de voie mais aussi de tunnel. Ces tunnels, on nous annonce à pratiquement 12 millions de tunnels, 12 millions de travaux. Nous, on a estimé à 2 millions, voilà, donc ça fait déjà 10 millions d'économies. Mais après, encore faut-il, voilà, quand on va vous dire que si vous voulez garder la ligne, c'est 70 millions, ben effectivement, pour 35 km, ça va intéresser personne. Hein. Nous, on pense que les sommes sont astronomiques pour cette partie de ligne.
Moi, ma fonction, j'ai fait un peu de tout, quoi. J'ai fait de la pose, la sécurisation, responsable de chantier et accompagnateur en machine.
Arnaud Braconnier, ouvrier sur les voies de chemin de fer pendant 8 ans.
Bah, la pose, c'est surtout c'est quand tu as des créations de lignes ou des rénovations de lignes. C'est-à-dire que sur une rénovation de ligne, tu changes les traverses, tu changes le caillou, tu changes le rail. Bon, après de la création, c'est bon, ça c'est pas nous qui faisons, t'as une plateforme, et après c'est toi qui crée la ligne, quoi. Bah oui, t'as les chantiers fermés, par exemple, chantiers fermés, c'est-à-dire que les trains ils roulent pas. T'as juste des trains de chantier qui roulent, quoi. Après t'as les chantiers ouverts, mais là qui sont protégés par des annonceurs. C'est-à-dire t'as un mec tous les 100 ou 150 mètres, je sais plus, avec une trompe, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, quoi. Le premier averti qui sonne, qu'il y a un train qui arrive, le chef il dit voilà, quand le train est à tel machin, toi tu sonnes. Après c'est le rôle de chaque annonceur sonne l'un derrière l'autre, quoi.
2,5 millions pour changer, et là c'était une opération, en fait on appelle ça des gros travaux, mais dans la vie du chemin de fer, c'est une opération courante de maintenance. C'est un petit peu comme quand on bouche les nids de poules sur une route, c'est-à-dire cette ligne elle est équipée uniquement en traverse bois, à partir de Busseau jusqu'à Feltin sur les 30 derniers kilomètres, et voilà, de temps en temps, bah, le bois ça pourrit, il faut renouveler les traverses qui pourrissent, donc on n'était pas dans un renouvellement complet de l'infrastructure, on était dans une phase d'entretien, mais qui a été fait de grande ampleur, et voilà, maintenant on nous dit que ça suffit plus, alors que ça fait à peine 2 ans que ça a été fini. Toujours pareil, aucune limitation de vitesse non plus pour franchir les tunnels, on est juste là dans des réglementations de voûtes en briques, c'est-à-dire ça fait plus de 100 ans que ces voûtes en briques tiennent, bon, bah, du jour au lendemain on nous dit qu'il faut projeter du béton par-dessus, pour les sécuriser encore plus. À l'heure actuelle, il n'y a aucune brique qui est par terre, hein, et le train passe sous les tunnels, pareil, à vitesse commerciale. Donc on est encore une fois de plus dans un argumentaire sécurité, mise aux normes, etc., alors que ça pose aucun problème pour faire circuler 2 autorails par jour. On n'est pas sur une ligne TGV. Hein.
Puis tu travailles par n'importe quel temps, ça neige, ça vente, ça pleut, tu travailles toute la journée dehors et... C'est physique, quoi. Une traverse, c'est 300 kilos, quoi. Et des fois, quand on échange les traverses, t'es obligé... Bon, les traverses sont posées par le train, mais après, faut les remuer, faut les... Enfin, voilà, quoi. Non, mais nous, le train les posait, et nous, à la baramine, après, on les remettait... parce que c'est au millimètre près, quoi.
Ah ouais, il y a un train qui passe...
Voilà, ouais, qui met les traverses, tac, tac, et après, toi, tu les règles. Après, soit tu le fais à la main, soit t'as une tifoneuse, ouais. Tu serres les boulons, quoi. T'as les mecs devant qui te posent et t'as les mecs derrière qui siphonnent. Soit tu les fais à la main, ou soit t'as des boulonneuses, quoi, pour faire.
On savait qu'elle commençait à faire beaucoup parler, cette ligne, mais 22 000 personnes au-delà des frontières de la Creuse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont partisans... pour laisser ces lignes ouvertes. On a des commentaires également de gens qui disent « Ben moi, c'est dommage, parce que quand je venais à la Cité de la Tapisserie, j'empruntais ce train. » Enfin, voilà. On n'est pas sur une fréquentation digne de la Polt, hein. On est sur de la ligne de desserte fine. Mais voilà, il ne faut pas dire que ce train n'était jamais utilisé. Je ne me suis jamais retrouvé tout seul dedans, par exemple. Alors, on n'est pas sur des masses considérables, mais en même temps, elle est parcourue par du matériel adapté à cette capacité. Mais il y a du monde quand même qui l'emprunte.
La La pétition « Touche pas à ma petite ligne » a recueilli près de 22 000 signatures. De nombreux rassemblements et manifestations se sont déroulés pendant tout le printemps 2025 pour empêcher la fermeture de la ligne Busseau-Feltin. Mais la fin de cette ligne ferroviaire était, comme on l'a vu, décidée depuis longtemps et elle a effectivement fermé en août 2025. Sur Radio Pays de Guéret, nous sommes d'inlassables optimistes et il est précieux de terminer cette série par des combats qui ont abouti, car il y en a. Même si la ligne Busseau-Feltin a fermé en août dernier, d'autres mobilisations, comme celle pour le maintien de la gare de Saint-Sébastien, toujours en Creuse, durent depuis 30 ans.
Comment je vois l'avenir du train en France ? C'est une bonne question. J'ai envie de dire, il dépendra beaucoup des politiques, parce que ça part d'abord d'en haut avec les moyens. Mais il dépendra aussi beaucoup des citoyens. J'ai envie de dire, qui aurait dit il y a 30 ans qu'on serait là encore 30 ans après et que le guichet serait là ?
Bertrand Giraud, président du comité de défense de la gare de Saint-Sébastien, la Codégas.
Et notre guichet est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des habitants qui se sont levés, qui ont dit aux élus, vous baissez les bras, nous pas. Et on a fait la politique commerciale de la SNCF, on a distribué nos propres tracts, on a distribué nos propres fiches horaires, et on a réussi à la sauver, cette gare. Donc j'ai envie de dire, il y a aussi une démarche citoyenne derrière ça. Si les citoyens vont voir leurs élus en disant, moi je veux garder mon train, il y a des pétitions qui circulent, c'est très bien. Mais les pétitions, c'est pas tout. Les élus, faut aussi les choper entre quatre yeux, comme j'aime bien le dire, et leur dire, le train, nous, on veut le garder. Si les habitants font cet effort, les trains peuvent être conservés. Le train a de l'avenir, parce que avec le dérèglement climatique, aujourd'hui, on sait faire des autorails, des trains qui ne consomment pas, on a du bimode, il y a un avenir pour le ferroviaire. Mais la décision, elle est politique et citoyenne.
C'est toujours triste parce que c'est ce qui représentait une autre vie, une autre époque, et c'était l'époque où les communes, les villages étaient très vivants. Et quand on regarde des cartes postales du début du siècle, c'est très marrant, c'est de voir tous ces gens dans la rue, en fait, ces villages extrêmement vivants, et aujourd'hui, ça a complètement disparu.
Pierre-Alain Menant, passionné de l'histoire du chemin de fer, il a écrit l'ouvrage « Histoire du chemin de fer en Creuse » sorti chez les Ardents Éditeurs en juin 2024.
Je pense qu'il y a plusieurs choses pour sauver le train en milieu rural. Premièrement, il y a une question d'investissement. Alors, on voit de temps en temps des chiffres dans la presse, mais la France serait un des pays qui investit le moins par habitant pour le ferroviaire. Et la première étape, c'est si on veut que les gens prennent le train, c'est que le train soit compétitif en termes de temps de parcours. Or, ce n'est pas toujours le cas, et je peux vous assurer qu'entre Limoges et Guéret, ce n'est pas le cas, parce qu'une fois, je venais de Feltin, le train était en retard, je n'ai pas pu prendre la correspondance pour Limoges, du coup, je suis allé avec les gens de la SNCF dans un taxi. Nous sommes partis après le TER de Guéret, mais nous sommes arrivés avant le TER à Limoges. Voilà. Le deuxième sujet, c'est les tarifs, une simplification des tarifs. Et troisièmement, c'est une coordination entre les différents modes de transport public. Avec, comme il y a en Allemagne, c'est-à-dire qu'avec un abonnement à 50 euros par mois, on a accès à tous les moyens de transport du territoire. Là, aujourd'hui, vous habitez à Guéret, vous allez de temps en temps à Limoges. Il faut que vous achetiez votre abonnement de bus à Guéret, votre abonnement de bus à Limoges, votre abonnement TER. Si de temps en temps vous allez à la souterraine ou au Busson, c'est encore les cas régionaux, c'est une autre tarification. Donc à un moment, tout ça est très complexe et il y a un besoin de simplification.
Alors les actions que nous avons menées autour de cette gare, d'abord elles ont été des actions d'urgence parce que nous nous sommes constitués dans un contexte où le guichet était menacé de fermeture deux jours par semaine, et puis les deux jours se seraient sûrement transformés en du définitif. Donc on a d'abord été dans une réaction d'urgence pour faire marche arrière à la SNCF, ce qu'on a réussi à faire. Après, on s'est battu sur les dessertes aussi, parce que pour avoir de meilleures dessertes, et dessertes intercités, Corail qui s'appelait à l'époque, et qu'on a réussi à sauver en 2000, mais qu'on a perdu en 2007. Et l'autre aspect de l'association qui est peut-être les deux autres aspects parce qu'ils sont liés, qui sont peut-être les plus importants, c'est que on s'est rendu compte que cette gare, il fallait, la faire vivre, apporter une dynamique et aussi exploiter le potentiel commercial. Parce que quand la SNCF a dit en 1996 on va fermer cette gare parce qu'elle n'est pas rentable, nous on s'est dit elle n'est pas rentable, on va voir. Et donc on s'est mis à faire nos propres fiches horaires, on s'est mis à faire des tracts qu'on a diffusés à 6000 exemplaires sur toutes les communes alentour. Et derrière, on s'est rendu compte, dans ces tracts, on donnait les horaires de la gare, on incitait les gens à l'utiliser, on donnait des exemples. À l'époque, c'était facile de prendre le train le matin, d'aller voir quelqu'un au CHU de Limoges, c'est toujours possible aujourd'hui, et de revenir le soir au train. On peut aller faire des courses à Châteauroux, à Limoges, donc il y a à la souterraine, il y a un potentiel d'utilisation, on donnait des exemples, et on s'est rendu compte que, en fait, avec cette politique, on a remonté le chiffre d'affaires et la fréquentation de 35% en 9 ans. Donc, on a démontré qu'en fait, la SNCF, qui voulait fermer ce guichet, n'avait absolument pas cherché à exploiter le potentiel commercial et qu'il existait bien.
Quand, par exemple, on a réussi à obtenir des vrais horaires pour que les travailleurs puissent se rendre à Limoges le matin et revenir le soir...
François Landry, créateur de la page Facebook La Petite Ligne, pour défendre et valoriser la ligne Limoges-Busseau-Feltin.
En campagne de communication, à part sur La Petite Ligne, où on a fait des tracts personnels, qu'on distribuait à droite à gauche, des publications partagées sur les réseaux sociaux, on n'a eu aucune affiche digne de ce nom et aucune communication sur le fait que le train repassait à des horaires compatibles avec les travailleurs et les lycéens. Parce que la phrase qu'on entendait le plus souvent dans les communes où elle est traversée, c'est « Ah bon, il y a toujours un train qui roule dessus, je pensais qu'elle était fermée, etc. » Donc déjà, le premier axe a été de la valoriser au niveau de son infrastructure et patrimoine. C'est-à-dire il y avait beaucoup de publications sur ses ouvrages d'art, le matériel qui roule dessus, etc. Déjà, rien que pour que l'image de cette ligne-là revienne dans les esprits. Après, donc, on s'est attaqué à la partie horaire, qu'on a bataillé pour avoir des horaires décents. Dès qu'ils ont eu lieu, on a fait une campagne où on a promu ces horaires. Tous les comités de ligne, on allait râler en disant que les horaires étaient complètement inadéquats.
C'est ouvert à tout le monde.
Il y a un comité de ligne par an. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, chacun propose ses idées, etc. Elles sont étudiées et si elles sont jugées pertinentes, elles sont mises en place.
On essaye de mettre en place des produits touristiques autour de cette gare, d'en faire notamment le point d'accès de la vallée des Peintres.
Bertrand Giraud, président du comité de défense de la gare de Saint-Sébastien, la Codégas.
On a la chance d'être à côté de la vallée des Peintres, à côté de la vallée de la Creuse, on a des sites touristiques formidables. On a des chemins de randonnée, là avec des bénévoles on est en train de remettre en état l'ancienne ligne Saint-Sébastien-Guéret qu'on a appelée la Ferroverte. Donc là on a une artère majeure qu'on peut utiliser pour plein de choses d'ailleurs, pas uniquement la randonnée pédestre, hein, ça peut être les cavaliers, les motards, les quads, mais on peut l'utiliser aussi comme véritable point d'accès touristique pour des touristes. Et notamment, c'est là-dessus qu'on travaille, des touristes qui veulent faire du tourisme sans voiture. On travaille avec la commune d'Aiguzon-Chantôme, dans l'Indre, sur un projet de location de vélos, de points de location de vélos, qui seraient mis dans les gares, comme Argenton, Aiguzon, Saint-Sébastien, mais également dans les points touristiques, un peu comme le style Vélib. C'est-à-dire, on peut envisager, là, moi, je le vois bien à Paris, les gens ont de moins en moins de voitures. À Paris, on voit beaucoup de vélos, on voit beaucoup de trottinettes. Pour beaucoup de gens maintenant, la voiture n'est pas forcément l'outil pour aller en vacances. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est répondre à un public qui viendrait en train, aurait réservé son vélo, donc arrive dans une gare, on va dire, par exemple, Aiguzon, réserve son vélo, la personne prend son vélo, va à Gargilès, visite Gargilès, elle pose le vélo, ensuite elle décide de faire Gargilès-Fréslines en randonnée, et à Fréslines, elle reprend un vélo et elle revient à la gare de Saint-Sébastien. C'est un petit peu, c'est un cas d'usage qu'on peut envisager. Voilà, c'est un exemple des projets sur le quai, sur lesquels on travaille.
Les enregistrements qui ont servi à ce documentaire ont été réalisés au printemps 2025, lors de la mobilisation des Creusois pour sauver la dernière ligne capillaire interne au département. La fermeture de cette ligne a cependant été actée en août 2025. Depuis, d'autres mobilisations groupant plusieurs départements ont vu le jour, comme le mouvement « La colère des sans-trains », qui se bat pour l'amélioration de l'entretien des lignes TER en Nouvelle-Aquitaine et Massif Central. Rendez-vous compte que, en Ardèche par exemple, il n'y a ni train, ni gare depuis 1973. Pourtant, en 1840, le département comptait 96 gares et plus de 540 km de lignes. Pour en savoir un peu plus sur le sujet, je vous conseille le journal Reporter qui a publié une carte très intéressante de l'état réel des trains du quotidien. On y voit clairement des nœuds ferroviaires autour des grands axes urbains et des vides dans les zones rurales. Au moment où le changement climatique nous oblige à repenser nos déplacements, il est plus que dommage que les nombreuses lignes de train existantes soient laissées à l'abandon. Merci aux participants à ce reportage, Bertrand Giraud de l'Association de défense de la gare de Saint-Sébastien, Codégas, Pierre-Alain Menant, auteur de « Histoire du chemin de fer en Creuse », Yann Desenfants de la CGT Cheminots, François Landry, à l'origine du mouvement « Touche pas à ma petite ligne », Arnaud Braconnier, ancien ouvrier sur les voies de chemin de fer, et Jean-Luc Minot, fils de chef de gare à Busseau. Et en illustration sonore, je vous laisse avec le morceau d'un jeune Ardéchois, Simon Tabardel, et le bruit des camions. Réalisation, Anne-Laure Le Joliffe. Production, Radio Pays de Guéret.
Je suis là, parce qu'il faut bien que je sois quelque part. Je suis devant plusieurs idées, mais je sais pas laquelle me parle. Je sais pas si je suis bien ici, non, mais je sais que rester, c'est moins dur que d'être seul. Je veux voir là-bas, mais je sais pas si c'est bien que je me barre. J'ai fait tomber la commode quand j'ai ouvert tous les tiroirs. Je veux pas qu'on me félicite, non. Je ne fais que tester ce que ça fait d'être soi. Un gars bizarre qui fait pas ce qu'il dit qu'il va faire. Même immobile, il croit qu'il y va fort. Il part de tout là-haut puis finit par terre. Au milieu de la route éclairée par vos phares, le vent souffle et bouscule le pourquoi du comment. Quand il s'agit de le faire, il faut pas déconner. Faut faire comme si ça tenait qu'à nous. On va chanter plus fort que le bruit des camions. On se contredit. Tout ce qu'on veut, c'est y aller. On se le dit sur un ton aussi acide que mielleux. On se fait des signes avec les yeux. Y'a des réponses qu'on devine. On se contredit. Tout ce qu'on veut c'est y aller. On se le dit sur un ton aussi acide que mielleux. On se fait des signes avec les yeux. Y'a des réponses qu'on devine. J'en brûle d'envie mais je me retiens. Plus le temps file, plus je deviens un truc sensible qui lutte dans le vide, mais qui n'a pourtant aucune émotion. Y'a des larmes qui coulent mais qui restent muettes. Elles sont sûrement trop fatiguées pour parler. Je veux rencontrer tout ce que j'aurais pu être. J'ai des jambes pour courir, des yeux pour regarder.
Y'a un problème? Ça va, JP? Et toi? Qu'est-ce qu'il y a?
Alors on y va, on sait pas où mais on a rendez-vous. L'idée d'arriver est encore en débat. C'est le fait de stagner qui nous a rendu fous. La tête dans l'après, les pieds dans l'avant. Je jure que plus jamais j'attends. À plat ventre sur la ligne blanche, je vois les voitures scintiller. Y'a des flèches qui indiquent le sens d'un avenir en pointillé. J'ai froid et le vent n'entend pas ma voix s'élever. Je veux faire le poids face à la vie.